Cours de métaphysique par le Père Philippe. Saint Joseph, le 18 décembre 84.
Nous allons continuer à regarder la relation, essayer d'entrer dedans. Je vous avais dit, sans faire une trop longue topique, c'était quand même un peu nécessaire quand il s'agissait de la relation, étant donné l'importance du sujet. Alors, j'étais resté à saint Thomas, ce passage très important dans saint Thomas, où saint Thomas fait la distinction entre le had et le in. N'oublions pas, c'est un théologien qui fait ça. Le philosophe, lui, regarde la relation prédicamentale. Il essaie de comprendre ce qu'elle est. Le souci de saint Thomas, c'est de voir comment on peut appliquer la relation à Dieu. Mais il y a tout un aspect critique. Comment la relation peut-elle être attribuée à Dieu? Et comment la relation peut-elle être un instrument pour le théologien par rapport au mystère de la très sainte Trinité? Où on est en présence à la fois de l'absolu de la simplicité de Dieu et en présence de la fécondité. Alors comment discerner dans la très sainte Trinité, comment préciser dans la très sainte Trinité la distinction des personnes? Une personne est relative à l'autre, puisque le Père est relatif au Fils et le Fils est relatif au Père. Alors comment pouvons-nous saisir la relation en Dieu sans qu'elle supprime le point de vue de la simplicité? Toutes les autres déterminations en dehors de la relation sont à évacuer. Parce que toutes, elles mettraient quelque chose de positif dans une personne en l'excluant de l'autre. Donc, ça briserait la simplicité. Seule la relation, à cause de la débilité de son être, la relation peut être attribuée à une personne. Père, au Fils, la relation de filiation, la relation de paternité, sans briser la simplicité. Mais voilà quand on se pose le problème, il faut. Et s'il y a une tradition, saint Thomas n'est pas le premier à faire ça, il y a une tradition en ce sens que le problème de la très sainte Trinité, regardez dans saint Augustin, mais saint Augustin n'a pas été jusqu'au bout de la précision de saint Thomas. Il est resté trop au niveau de la vie. Ce qui est propre à saint Thomas, c'est de pouvoir justement préciser au niveau de l'être. On pénètre dans la très sainte Trinité par le point de vue de la vie, par le point de vue des processions. Et on essaie, à partir des processions, de comprendre la distinction des personnes au point de vue de l'être, tout en affirmant la simplicité absolue. Évidemment, quand vous dites « Dieu sans l'être », je ne sais plus comment il pourrait préciser le mystère de la très sainte Trinité. Ce serait à demander à ceux qui veulent dire « Dieu sans l'être ». Parce qu'alors là, je ne vois plus du tout. Parce qu'alors, on est, alors, très bien, on dise qu'on ne peut rien dire du mystère de la très sainte Trinité, c'est très bien, mais Dieu l'a révélé. Donc si Dieu nous l'a révélé, il nous l'a révélé pour que nous puissions contempler ce mystère et pour que nous puissions le communiquer. Et l'Église, de fait, a quand même précisé certaines données sur le mystère de la très sainte Trinité que nous devons garder. Alors, vous voyez comment saint Thomas, lui, se sert de la relation dans ce qu'elle a de plus pur. Alors, c'est là où c'est la purification du prosti, la purification pour essayer de saisir que dans la relation, telle qu'elle existe autour de nous, telle que nous pouvons l'expérimenter, il y a le had et le in. Le in, c'est son point de vue d'enracinement, d'inhérence, dans le sujet relatif. Et le had, c'est uniquement le vers, dans toute sa pureté. Alors, le had n'implique aucune perfection, C'est le propre du relatif. Le relatif n'apporte pas de perfection. Et le had peut être attribué au Père sans être attribué au Fils, tout en maintenant la simplicité. Comprenez bien, on ne vous donne pas par là l'intelligence du mystère de la très sainte Trinité. On vous montre comment vous pouvez en parler correctement. C'est déjà beaucoup. Comment vous pouvez en parler correctement et penser que ce n'est pas impossible, que ce n'est pas contradictoire. Ce n'est pas l'au-delà de la contradiction. Parce que ce serait très facile de dire en Dieu, avec Nicolas de Cuse, on pourrait dire en Dieu, il n'y a plus de contradiction, donc on peut tout affirmer. Alors, on peut tout dire de Dieu. Ça n'a plus d'importance. Pas du tout. On maintient, et c'est ça qui est très beau, on maintient jusqu'au bout la rectitude de notre intelligence qui vient de Dieu et donc qui est faite pour Dieu. Et dans l'intelligence, il y a une possibilité de parler correctement du mystère de la très sainte Trinité sans saisir ce qu'est Dieu, mais en saisissant le quomodo non sit, comment elle n'est pas. Et c'est en se servant de la relation, donc dans son point de vue le plus pur, que saint Thomas précise le constitutif formel, très audacieux, de la paternité, de la filiation et de l'Esprit Saint. Le constitutif formel de la paternité, c'est le had subsistant. Alors vous voyez cette chose extraordinaire, parce que ça, il faut quand même voir le côté très extraordinaire qu'il y a. Il y a à première vue comme une espèce de ça fait sauter tout, dire un had subsistant. Normalement subsiste la substance, le had qui est uniquement tourné vers le respectus, vers flèche uniquement, de dire que cet had subsiste. Et on ne peut pas dire autrement, c'est ça qui est merveilleux. Vous ne pouvez pas dire autrement. Si vous attribuez à Dieu le had, parce que vraiment le Père est Père, tout en étant tourné, parce qu'il est tout entier tourné vers le Fils, parce qu'il est source de ce qu'est le Fils, si vraiment vous dites que le Père est Père, nécessairement, sa relation vis-à-vis du Fils est subsistante, puisque tout en Dieu est subsistant. Il n'y a pas d'accident en Dieu. Donc tout est subsistant. Donc cet had que vous attribuez au Père, il subsiste. Alors vous êtes en présence de quelque chose de tout à fait inédit et qui est unique. Comprenez bien, vous ne pouvez pas transposer, parce que ça c'était le Père Gérard des Lauriers, qui disait, c'est merveilleux, avec la très sainte Trinité, nous avons une nouvelle notion de la relation. Ah, pas du tout. Je n'ai aucune notion nouvelle, puisque la très sainte Trinité, dans son QI, dans ce qu'elle est, m'échappe complètement. J'ai un jugement d'existence. Il y a les trois personnes en Dieu. Et il y a cet acte subsistant en Dieu. Je ne peux pas dire à partir de là que j'ai une nouvelle raison, une nouvelle ration de la relation. Et cette nouvelle ration de la relation, c'est que la relation rejoint la substance. Que j'ai donc une relation subsistante. Et donc la distinction relation-substance est dépassée. Vous voyez ? Cette espèce d'astuce particulière qui consiste à dire, mais oui, alors j'ai quelque chose de nouveau, la relation prise d'une façon habituelle au point de vue philosophique, j'ai, grâce à la très sainte Trinité, la solution merveilleuse, c'est que relation et substance, au fond, je ne dis pas divise l'être, mais sont un dans l'être. Dans l'être de la très sainte Trinité. Mais comme l'aide de la très sainte Trinité m'échappe complètement, je ne peux plus rien dire. Vous voyez, je dis ça parce que c'est une tentation. Hein. C'est peut-être une tentation qui a joué un rôle très important, du reste, hein, dans l'aspect de laïcisation de la pensée théologique. Si on comprend que toute la pensée philosophique occidentale, notre philosophie française, européenne, dépend de la théologie, radicalement, bien évident. Il y a peut-être ça, vous voyez, dans une espèce de rêve étonnant de faire que la relation devienne la substance. Alors évidemment, ici, la relation ne supprime pas la substance, elle est un ad subsistant. Mais si je transpose cette relation comme un absolu, alors elle va évacuer. Ça peut être joué. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de regarder une erreur. Parce qu'il y a un petit quelque chose qui explique cette espèce d'attirance vers la relation dans son absolu. Enfin, ce qu'on peut dire, c'est que dans la position de saint Thomas, on voit que ce qu'il y a de plus fragile dans l'être, au niveau des catégories, la catégorie relation, au point de vue des déterminations, c'est la catégorie la plus difficile à saisir. Parce que vous ne pouvez pas la saisir directement en elle-même. Quand vous saisissez quelque chose directement en lui-même, vous pouvez le thématiser et le regarder pour lui-même. Je peux faire ça pour la qualité. Je peux faire ça pour la quantité. Je peux faire ça pour l'action, la passion. Je peux faire ça pour toutes les catégories, sauf la relation. La relation, vous ne pouvez pas saisir la relation en elle-même sans voir son corrélatif. Donc, il implique l'autre pour le saisir, puisque tout son être est d'être tourné vers l'autre. Et donc, si je ne regarde pas l'autre, je ne peux pas le saisir. Alors c'est là où on voit que la relation comme telle ne peut pas se saisir en dehors de la dyade. Les autres sont un, la relation est deux. La relation implique tout de suite deux. Et c'est impliqué dedans. Et cependant, ce deux que la relation implique, dans son être, il implique cela, il n'a pas d'assez d'intelligibilité, donc assez d'être pour se présenter seul. On voit très bien. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils n'ont pas assez d'être pour se présenter seul. Alors ils se présentent toujours en fonction d'un autre. C'est le propre du fonctionnaire. Quand la fonction l'emporte sur la personne, la personne du fonctionnaire ne peut plus se présenter seule. Et c'est le fonctionnaire qui est présent. Et la personne, vous ne la saisissez plus. C'est très déplaisant, mais c'est comme ça. Et vous ne voyez que le fonctionnaire. Eh bien, la relation, c'est ça, vous voyez. C'est ce qui est toujours relatif à un autre. Vous ne pouvez pas saisir directement. Alors, dans la très sainte Trinité, quand vous appliquez la relation à la très sainte Trinité, quand vous dites que le Père est Père, le Père est Père en lui-même, tout en étant tout entier tourné vers le Fils. Un ad subsistant. C'est extraordinaire, ça. Quand on essaie de comprendre, parce que c'est vraiment ça le mystère de la très sainte Trinité, c'est que le Père est plus Père que n'importe quel autre Père, puisque le ad subsiste. Ce n'est pas quelque chose qui s'ajoute. Un autre Père, il a sa propre personnalité et il est père en fonction de la procréation. Alors il est père. L'âde vient s'ajouter. Tandis qu'il s'agit de la paternité divine, de la paternité du père, du père par excellence. Ce père, il subsiste dans sa paternité. Donc il est à la fois celui qui est le père dans tout ce qu'il est et en même temps, tout ce qu'il est, il est Père, et en même temps, il est lui-même, puisque il est Dieu. Ça, c'est très beau à contempler. C'est pour ça que ce petit pas de subsistance, c'est très très beau comme contemplation. Il ne faut pas trop c'est accepter de ne pas le saisir très bien, hein, à travers le point de vue de l'analogie. C'est le petit brouillard matinal, n'est-ce pas, de l'analogie. Et il faut toujours, parce que si vous, le grand soleil, vous l'aurez dans la vision béatifique. Et alors dans la vision béatifique, vous direz, mais c'est extraordinaire, hein, d'avoir découvert le « ad subsistant ». Et c'est vrai, c'est notre condition humaine, hein, notre pauvre condition humaine ne peut, vis-à-vis de la très sainte Trinité, que dire ça. Alors c'est le « ad subsistant ». Et le « ad subsistant », c'est justement ça où j'essaie de saisir quelque chose, le mystère qui m'échappe, et cependant ce mystère m'est donné. Alors j'ai pas le droit de dire « Ah, je n'ai rien à dire ». Si vous êtes prophète, vous avez le droit de dire « Ah, ah, ah ». Mais si vous êtes prédicateur, et si vous enseignez, vous n'avez pas le droit de dire, le mystère de la très sainte Trinité, « Ah, ah, ah ». Et puis c'est tout, hein. Restez dans le mystère. Non, je dois aller le plus loin possible dans l'intelligence du mystère, tout en respectant pleinement l'intelligence du mystère. Mais en même temps, je dois mettre le plus. Alors, qu'est-ce que je fais? Les deux extrêmes de toute ma vie intellectuelle par rapport à l'être, substance, relation. Je les unis. Non pas dans une synthèse hegelienne. Parce que vous voyez, hein, comme ce serait joli. Hein, ce serait très très joli. Vous avez l'usia, donc ce qui est en soi, et puis ce qui est entièrement pour l'autre, vers l'autre. La position la plus grande dans les catégories, la détermination première, et ici, une détermination ultime, qui est tellement fragile qu'elle ne peut s'appuyer que sur un autre. Alors vous avez l'opposition entre ces deux déterminations, vous faites la synthèse, la subsistance. Ah, c'est pas ça du tout, hein. Mais c'est très intéressant de voir ça, parce que ça, c'est là où l'intelligence veut elle-même faire la synthèse. Il y a des théologiens qui font ça. On pousse l'analogie jusqu'au bout, on aboutit à Dieu. C'est pas ça du tout. On saisit toujours l'ousia, et en l'attribuant à Dieu, on dépasse absolument tout ce qu'on peut en saisir. Quand je dis que Dieu est substance, Dieu est. Et s'il est, il est substance. Parce qu'au fond, en disant Dieu n'est pas... on ne peut pas appliquer l'être à Dieu. Vous voyez, au fond, derrière, il y a tout ça. C'est qu'on ne peut pas appliquer à Dieu le point de vue de la substance. Donc, consubstantiel, ça ne signifie rien du tout. Donc, parce que l'être et la substance, tout de suite, hein, c'est immédiatement, on ne peut pas attribuer ça à Dieu. Comprenons bien, quand j'attribue la substance à Dieu, la substance à ce moment-là, quand je dis Dieu est un être absolu, substantiel, le mot substance, la signification de la substance, n'a plus du tout la même signification. Et ça m'échappe complètement. Par l'existence, il y a l'éclatement de l'intelligibilité, de la raison de substance. Et la raison de substance a une signification tout autre. C'est la même chose pour l'âme. Là, il faut bien saisir ça. Donc, je ne peux pas en faire la synthèse, puisque c'est deux éclatements qui m'échappent complètement, mais qui existent dans l'unité de Dieu. Alors, je ne vois pas plus, si vous voulez, ceux qui s'intéressent à la question, vous n'aurez qu'à regarder. Je vais simplement avec vous encore voir un dernier point qui me semble important à saisir, c'est de voir comment la substance, comment la relation avec l'idéalisme, l'ontologisme, disons plutôt l'ontologisme, comment dans une position d'ontologisme, la relation arrive à dévorer la substance. Pour prendre ça un peu d'une façon tragique. Alors vous voyez comment, même s'il n'y a rien de plus, de plus froid que la relation, n'est-ce pas ? Alors prenons-le d'une façon tragique. À l'intérieur de l'ontologisme, dans l'ontologisme, comment la petite bête la plus fragile, qui est la relation, arrive à dévorer la substance ? Et c'est extraordinaire de voir ça. Et c'est le propre de l'ontologisme. De faire qu'au terme, il n'y a plus que la relation. C'est très très curieux au point de vue de la pensée. Et ça, c'est intéressant. C'est très intéressant parce que je vous ai déjà dit, l'ontologisme, nous devons essayer de le comprendre de multiples manières pour nous purifier de toute ontologie. C'est ce qui est le plus difficile. On croit se purifier de l'athéisme. Et on n'est pas purifié de l'athéisme tant qu'on garde de l'ontologisme en soi. Parce que tant que vous gardez de l'ontologisme en vous, il y a un petit athée qui est toujours là en disant un jour ou l'autre, je l'aurai. Parce que ontologisme et athéisme, ce sont deux contraires. Or, les deux contraires, quand nécessairement, ils ont quelque chose de commun. Alors, vous rejetez l'athéisme, moi, je peux pas, c'est évident. Je suis chrétien, l'athéisme, je le rejette. Mais oui, je suis chrétien. Vous le faites au nom du christianisme, pas au nom de l'intelligence. Et l'ontologisme, oh, il a été baptisé, l'ontologisme. Je comprends, plusieurs fois. Il a été mal baptisé, mais il a été baptisé quand même. Alors l'ontologisme, on le garde. Et si on est ontologiste, un jour ou l'autre, on deviendra athée. Il ne faut pas l'oublier, il y a une opposition entre la position de l'ontologie et l'ontologisme. Fait le lit de l'athéisme. Il y a quelque chose de commun entre les deux. Alors, l'athéisme, on le refuse, mais on garde l'ontologisme. Et si on garde l'ontologisme, il y a quelque chose qui fait que, fatalement, il y a en nous quelque chose qui ne peut pas être entièrement dans la vérité. Alors, c'est pour ça que c'est intéressant de voir la position d'Hamelin. Dans le système idéaliste d'Hamelin, pour qui le connaître est partie intégrante de l'être. L'élément premier n'est pas l'être, mais la relation. Primo cadit in intellectus, relatio. La première chose qui tombe dans l'intelligence, c'est la relation, le prosti. Il n'y a d'intelligence que la relation. Hamelin part de la relation, être abstrait et indéterminé, pour aboutir à la conscience, qui est l'être concret, actualisation plénière de la relation. Vous voyez comment on part de la relation pour aboutir, et ça c'est très intéressant comme cheminement. Très intéressant, c'est un point de vue ultime. Hein. Vous savez bien, le philosophe aime toujours les monstres. On doit toujours regarder les monstres. Parce que voir l'œil du cyclope, ça me fait comprendre les deux yeux de l'homme normal. Hein. Alors il faut regarder l'œil du cyclope. Eh bien ici, dans toutes les philosophies, il y a substance et relation. Subitement, je suis devant une philosophie où il n'y a plus que la relation. C'est la relation qui prend tout. C'est intéressant de voir ça. C'est quand même très intéressant de voir une philosophie. Et c'est intelligent, Hamelin. Et puis en même temps, c'est très clair, du moins, ça paraît très clair. C'est une apparence de clarté étonnante. Hamelin, donc, part de la relation, être abstrait et indéterminé. C'est pas gênant pour un idéaliste de partir d'être abstrait. Mais on doit rejoindre l'être concret. Hein. C'est du néo-hegélianisme, il ne faut pas l'oublier. Pour aboutir à la conscience qui est l'être concret, actualisation plénière de la relation, son système qui est une dialectique synthétique, c'est comme ça qu'il l'appelle, une dialectique synthétique se présente. Je ne sais pas si c'est pas, si quand on dit dialectique synthétique, si c'est pas un pléonasme. Hein. Est-ce que toute dialectique n'est-elle pas synthétique? Toute pensée dialectique implique le point de vue de la synthèse. Donc, c'est intéressant de voir quand même qu'il le dit. Son système, qui est une dialectique synthétique, se présente comme une sorte de preuve ontologique visant à établir que l'être, c'est l'esprit, et l'esprit en tant que conscience. voyez, Hegel disait lui-même que toute sa philosophie n'est qu'une preuve ontologique. Il le dit. Toute sa philosophie n'est qu'une preuve ontologique. Une preuve ontologique de l'existence d'un absolu. Une preuve ontologique de l'existence de Dieu. Tout est vu de cette manière-là. Alors, évidemment, le disciple dit la même chose. Hamelin pose ainsi un esprit qui embrasse tout, qui est tout, et qui donc, en ce sens, est absolu. À condition que l'on entende par absolu, non pas l'indéterminé échappant à toute relation, mais au contraire, ce qui contient en soi toutes les relations. L'être est un tissu de relations. Alors il ne dira pas ça, ça c'est Merleau-Ponty. Mais lui dira, la conscience, c'est le tissu de toute relation, ce qui est plus juste. Que la conscience soit le tissu de toute relation, c'est assez juste. Puisque la conscience, c'est toujours relative à quelque chose, j'ai conscience de. Je suis relatif à quelque chose d'autre. Alors que la conscience soit un tissu de relation au niveau de l'intelligibilité, c'est assez juste. Le monde est une hiérarchie de rapports de plus en plus concrets, jusqu'à un dernier terme où la relation achève de se déterminer, de sorte que l'absolu est encore le relatif. Et c'est vrai que si vous avez le point de vue de l'absolu dans la conscience, l'absolu est encore relatif. Il faut arriver à comprendre l'être de raison et la conscience. L'être de raison qui est l'universel, le premier être de raison qui est l'universel, la relation de raison qui est l'universel, elle est un tissu de relations. Les cinq prédicables. Les cinq prédicables sont un tissu de relations. Le genre, différence spécifique, espèce, propre, accident. Et je crois qu'il faut partir de là si on veut comprendre. Si vous ne voyez plus la distinction entre le point de vue de l'être de raison et l'être réel, nécessairement vous aboutirez à dire que le concret, c'est la conscience qui est présente à ce tissu de relation. Hamelin affirme que le premier principe de la méthode, le principe de l'opposition, est le premier élément des choses. Le rapport ne peuvent faire qu'un. Donc, le rapport et le principe d'opposition ne peuvent faire qu'un. Les choses sont donc constituées de rapports. Tout est un tissu de relations. Prenez la science d'aujourd'hui. Quand vous prenez la relativité absolue, vous aboutissez fatalement à ce point de vue-là. C'est un tissu de relations. Au point de vue scientifique, qu'est-ce que vous êtes ? Cathédrale de molécules. C'est une cathédrale de molécules, c'est magnifique, évidemment avec des couleurs différentes. Vous êtes chacun d'entre vous une cathédrale de molécules. Quelle belle cathédrale de molécules qui vient vers moi. Quand vous voyez un être qui vient vers vous, vous dites ça, quelle magnifique, extraordinaire cathédrale de molécules. Mais une cathédrale de molécules, c'est quoi? C'est un tout avec un tissu de relations. Et c'est vrai qu'au point de vue scientifique, vous aboutissez à ça. Vous ne pouvez pas aboutir autrement. Une organisation merveilleuse. Mais une organisation, c'est quoi? C'est un tissu de relations. Une organisation. C'est un tout avec des rapports. Alors vous voyez, c'est intéressant parce que c'est par là qu'on rejoint une vision scientifique des choses. Hamelin, c'est un matheux. La relation scientifique des choses. On essaie de comprendre comment la réalité que je vois, eh bien oui, ça ne peut être que cela. Son intelligibilité ne peut être qu'un tissu de relations. La plus grande intelligibilité que j'ai des choses, c'est ça. Et donc, c'est ce tissu de relations et c'est cette relation constante. voyez, quand il affirme donc que le premier principe de la méthode, alors la méthode joue un rôle principal, c'est le principe de l'opposition. Et le premier élément des choses, le rapport. Alors, ça ne peut faire plus qu'un. Méthode et élément des choses ne font qu'un. Les choses sont donc constituées de rapports. Mais Hamelin entend professer un idéalisme réaliste, comme toujours l'ontologisme. L'ontologisme, c'est un idéalisme réaliste. Il ne faut jamais dire à un ontologiste qu'il n'est pas réaliste. Il est réaliste, mais à travers l'idée. Donc un idéalisme réaliste, pragmatique, n'admettant aucune idole, dit-il, fût-ce celle de la relation. Ça, c'est le mieux. Car la relation n'est pour lui, comme tous les noms analogues, nombre, temps, etc., qu'une autre désignation, un peu moins déterminée, de la synthèse en général de la totalité de la durée, contre le prétendu réel des écoles dites réalistes, donc contre la substance. C'est la relation qui prend possession de la substance. Dans le réalisme, pris d'une façon un peu court, vous avez la chose en soi, hein, comme on dira, et comme Sartre le dira encore, la chose en soi. Et vous savez comment Sartre définit les choses en soi? Le manche à balai. Votre être, c'est le manche à balai, c'est la chose en soi. C'est la chose en soi. Ça n'a aucun intérêt, la chose en soi. Parce que, bah, oui, c'est le noumène. Hein. Oui, on reste toujours un peu conscien. C'est le noumène, c'est la chose que vous ne connaissez pas. Alors vous réfugiez là tout dedans. C'est le capharnaüm de l'intelligence, la chose en soi. C'est pour ça qu'il y a les manches à balai, n'est-ce pas? Alors vous rejetez tout ça là-dedans. Les vieux manches à balai. Alors vous remettez tout ça là-dedans et vous ne connaissez pas. Qu'est-ce qui est intéressant? C'est l'être pour soi, la conscience. Ah, là, au moins, c'est intelligible. Oui, on coupe les deux. Et on voit très très bien comment, dans cette perspective de Hamelin, l'être en soi, donc la réalité, ce qu'on appelle dans le réalisme l'être en soi, l'être en soi, je ne le connais pas, donc il ne m'intéresse pas, puisque je ne le connais pas. C'est une réalité que je ne peux jamais atteindre. Ce qui est intéressant, c'est de partir de la conscience, donc de la relation et de ce tissu de relation qui peut exister, donc c'est la relation n'est pour lui, comme tous les noms analogues, nombre, temps, qu'une autre désignation, un peu moins déterminée, de la synthèse en général, de la totalité de la durée, etc. Contre le prétendu réel des écoles dites réalistes, Hamelin affirme que la réalité vraie est le rapport plus ou moins riche d'un contenu qui fait corps avec lui, parce que ce contenu est lui-même rapport. Avec lui, c'est-à-dire avec sa conscience. C'est évident, on est dedans. Le caractère essentiel du rapport est l'impuissance d'être l'un sans l'autre. C'est ce que je veux dire, l'être débile du relatif. Hein. Il ne peut pas se présenter seul. Le caractère essentiel du rapport est l'impuissance d'être l'un sans l'autre, caractère qui ne peut aller sans son opposé, c'est-à-dire sans la nécessité d'être l'un sans l'autre, qui du reste est encore un rapport. Or, le rapport où l'on pose que l'un est sans l'autre, c'est le nombre. Ainsi, la relation, le rapport pur a pour antithèse le nombre, rapport spécifique postérieur au rapport pur. Et la synthèse en laquelle il se concilie, synthèse expliquant que quelque chose existe, qui se trouve à la fois et invinciblement liaison et dispersion, assemblage de termes discrets et pourtant non séparés, est une quantité continue, se développant en une série irrésistible, simple et unique. Autrement dit, la notion de temps. Et on va reconstituer progressivement les quelques grandes catégories essentielles. Alors on va voir le nombre et le temps à partir de la relation, à partir de cette opposition première, de ce rapport plus exactement. Mais au temps s'oppose l'espace et leur synthèse et le mouvement, et ainsi de suite. Vous reconstituez le temps et l'espace, et si vous faites la synthèse du temps et l'espace, vous avez le mouvement. Parce que le mouvement est toujours dans le temps et l'espace. Les deux conditions nécessaires pour le point de vue du mouvement, c'est le temps et l'espace. Au terme, on aboutit inévitablement à l'être concret, la personnalité. Tout le système d'âme part de la relation à la personnalité. C'est la personnalité, c'est en ce sens-là qu'il y a une recherche philosophique, vous comprenez ? Il y a une recherche philosophique d'aboutir qu'est-ce que c'est que la personnalité ? Là, c'est bien la personnalité, c'est pas la personne, c'est la personnalité. Si l'être des relations précédentes se fondait sur une autre chose, l'être du nombre sur celui du temps, etc., parce que ces relations n'étaient que des abstraits à des degrés différents, le rapport ultime auquel Hamelin aboutit ne doit plus renvoyer à rien d'autre. Toutefois, il ne doit pas être l'existence en soi, car un rapport ne peut pas se figer en chose, la chosification, la chose en soi, l'être en soi. Il faut donc qu'il soit rapport de soi avec soi. Bien évident. Parce que s'il est en soi, il n'est plus... Donc, rapport de soi avec soi. C'est, vous voyez, c'est l'être pour soi de Sartre. C'est intéressant de le découvrir ici comme rapport de soi en soi. Il faut donc qu'il soit rapport de soi avec soi, qu'il se donne à soi-même ses déterminations, qu'il soit pour soi. Autrement dit, qu'il soit libre. À ce niveau, la relation devenue la conscience avec ses divers modes a acquis l'actualité pleine. Elle est ce qui est la réalité, l'être. Ici s'arrête la synthèse progressive de la pensée. Donc c'est le rapport de soi pour soi. Voilà la personnalité. Voilà la liberté. Voilà ce qui est au cœur dernier et ultime de tout. C'est l'esprit qui pense. Hein, c'est la conscience, si vous voulez. Parce que ça reviendra à ça. La personnalité, ça viendra à ça. Et alors, c'est l'être. Donc, vous voyez comment, progressivement, par une espèce de division constante, d'opposition constante, mais en partant du rapport, parce qu'on part de la conscience. Alors, on voit comment, par là, le point de vue de l'intelligibilité construit la réalité. On passe progressivement par la conscience au réel. Et on arrive à comprendre qu'au terme, c'est l'être. Je n'entre pas plus. Pensez simplement, et si vous avez le temps, lisez un peu Hamelin. Ça vaut la peine parce que ça aide à comprendre tout un système de pensée qui est quand même intéressant pour nous, étant donné ce que ça représente comme absolu. On en trouverait d'autres hein, qui donneraient un peu les mêmes choses. C'est-à-dire l'absorption de la substance par la relation. Je crois que dans Sartre, vous pourriez dire la même chose. L'absorption de la substance, donc de l'être en soi, puisque l'être en soi, en réalité, c'est la substance pour eux, par l'être pour soi. C'est-à-dire par la conscience. C'est la conscience qui absorbe le point de vue de la substance. L'être pris comme une donnée que nous ne pouvons pas atteindre. Et donc, il faut essayer de rejoindre ce réel de plus en plus par ce point de vue, de cette réflexion sur soi-même. Nous devons en face de cet ontologisme poussé à l'extrême, nous poser la question, alors au point de vue proprement philosophique, nous avons découvert la substance. Et nous avons découvert la substance comme cause propre selon la forme de ce qui est. Et nous avons découvert par le fait même que la substance, c'est bien le principe, c'est bien la cause propre de ce qui est, mais la substance n'exclut pas les autres déterminations de l'être. Autrement dit, la substance n'est pas exhaustive à ce qui est. Il y a deux choses différentes. Il y a ce qui est et la cause de ce qui est. Et la cause de ce qui est n'est pas l'être dans toute son extension. Je dois donc essayer de saisir quel est l'autre extrême de l'être, les miettes de l'être, en quelque sorte, la chose extrême. Face à la substance, qu'est-ce qu'il y a d'extrême? Et je peux dire tout de suite que ce qu'il y a de plus opposé, mais le terme n'est pas juste, de plus divers à la substance, c'est le relatif. Puisque la substance se présente justement comme l'être qui est principe, donc qui n'est pas relatif, et qui est principe en lui-même, et par lui-même. Donc ce qui est le plus opposé, c'est l'être relatif à un autre. Que représente cet être relatif? Cet être relatif a-t-il une détermination? Il existe, je ne peux pas le nier. Alors nous allons voir. Première affirmation, il existe quelque chose de relatif. Deuxièmement, quelle est sa détermination? Alors, il existe des termes relatifs, puisque nous partons toujours du jugement d'existence. Il existe des termes relatifs. Prenons ce qu'il y a de plus simple pour nous à saisir, c'est dans l'ordre de l'amitié. L'ami est relatif à son ami. Je ne peux pas nier l'existence de l'amour d'amitié. Et dès que je suis en présence de l'amour d'amitié, je peux dire immédiatement que je suis en présence d'un être qui, d'un homme, qui est relatif à un autre et qui reconnaît qu'il est relatif à un autre. Par l'amitié, j'affirme l'existence de la relation. L'existence de la relation ne peut pas être rejetée. Je peux encore découvrir l'existence de la relation par le point de vue du travail. Enfin, toutes mes expériences impliquent quelque chose de relatif. C'est très curieux. Donc je ne peux pas nier l'existence qu'il y a un être relatif dans le travail. Je transforme une matière. Je suis relatif à cette matière. Si cette matière n'existait pas, le travail n'aurait pas de sens. Donc, à l'intérieur même du travail, je découvre être relatif à un autre. Et l'œuvre, quand elle sera réalisée, elle se tiendra par elle-même. Mais elle restera toujours relative à celui qui l'a faite. Ça, je peux avoir l'expérience de cela dès que je réalise une petite dissertation. Quand vous réalisez une petite dissertation, vous n'avez qu'à réfléchir sur ce que vous faites. Vous faites, pendant que vous le faites, vous êtes relatif à cette dissertation, vous êtes relatif à cette matière que vous transformez. Et puis, quand elle est faite, Si on dit qu'est-ce qui a fait ça, c'est moi. Donc elle est relative à vous, même si vous ne l'avez pas signée. La signature est simplement une précision de l'être relatif que représente cette œuvre. Mais en dehors de la signature, l'œuvre est déjà relative à vous. Et elle a donc ce caractère d'être relatif à vous. Et si elle a ce caractère d'être relatif à vous, il y a quelque chose de particulier. Qu'est-ce que ça veut dire, une œuvre relative à celui qui l'a faite? Et l'existence d'un être relatif, je crois que je ne peux pas le nier. L'amitié, le travail, la coopération. Dans toute ma vie, je vois ça. Alors réfléchissez sur votre connaissance, c'est encore beaucoup mieux. Quand vous affirmez, je vous dis que ceci est vrai. Pierre, qui est là en face de moi, il est assis. Il attend de se lever. Mais il est assis encore. Alors, il est assis, donc il est. Et puis quand il se lève, et je dis, et je continue de penser, il est assis. Mon jugement a changé de caractère, parce que ce n'est plus vrai. J'aurais dû dire, il était assis il y a quelques minutes, mais maintenant il est debout. Je suis en présence. Je prends ça parce que c'est l'exemple que prend Aristote, et c'est très fort. Que de fait, mon intelligence est relative à la réalité. Et que la vérité implique cette relation. Et que le caractère d'un jugement est vrai ou n'est plus vrai si l'autre change. Et moi, je ne change pas. Je continue de dire, Pierre est assis. Moi, je ne change pas du tout, mais Pierre change et mon jugement va changer. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être relatif à l'autre, puisque c'est être relatif à l'autre qui va changer le caractère de vie.